Radio Kapi.
Livre blanc sur l'agression avérée de la RDC par le Rwanda et les crimes internationaux commis dans ce contexte par le Rwandan Defense Force et le AM23. Ce document a été présenté hier par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. D'après lui, ce premier volume permettra de documenter tous les crimes afin de les présenter devant des juridictions internationales. Et puis, Journée mondiale de lutte contre la corruption, c'était hier vendredi 9 décembre. À cette occasion, l'Inspection générale des finances et les organisations de la société civile recommandent aux Congolais de se mobiliser pour lutter contre ce fléau. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Jean-François Malangou, coordonnateur du bureau central de coordination BCECO. Il nous parlera de l'évolution des travaux dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires dans les Kassai. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Livre blanc sur l'agression avérée de la RDC par le Rwanda et les crimes internationaux commis dans ce contexte par le Rwandan Defense Force et le AM23. C'est le document présenté hier vendredi 9 décembre par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, et son collègue de droits humains, Fabrice Puella. Une présentation faite en présence des représentants du corps diplomatique, accrédité à Kinshasa, et de la presse. Pour Patrick Muyaya, ce livre, qui n'est que le premier volume d'une série, permettra de documenter tous les crimes afin de les présenter devant des juridictions internationales. Patrick Muyaya est au micro de Paul Matendo.
Ramener la paix suppose du courage de discuter sur de problèmes réels et voir dans quelle mesure on peut commencer à y donner des réponses communes ou des réponses solides. C'est dans cet ordre que le président de la République a fait le choix d'accepter un processus politique, vous l'avez suivi, qui a plutôt bien abouti avec les différents groupes armés, et c'est le seul groupe armé terroriste qui n'a pas souscrit à ces schémas, qui est à la base de massacres nous déplorons, parce que ces groupes armés est porté et soutenu par le Rwanda. Point n'est besoin de rappeler les passés historiques de ces pays voisins qui, pendant longtemps, a lorgné sur la République démocratique du Congo et qui, malheureusement, depuis les lendemains du génocide, a choisi de faire du territoire de la République démocratique du Congo les sanctuaires de toutes les violences pour nous et les sanctuaires de toute la prospérité pour eux.
Et puis après son tête-à-tête hier vendredi avec le pape François au Vatican, le docteur Denis Mukwege plaide pour des sanctions contre le Rwanda, accusé d'agression à travers un soutien au M23. Parlant du souverain pontife, le prix Nobel de la paix 2018 s'est dit touché par un homme de foi prêt à s'engager à sa manière pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Le docteur Denis Mukwege dans ses propos recueillis par Cynthia Bachizi.
Je pense que lorsque le Rwanda agresse les Congo, et tout le monde le reconnaît, aussi bien l'Union européenne que les États-Unis et l'ONU reconnaissent que le Rwanda agresse les Congo et qu'il n'y a rien qui est fait pour arrêter cette agression qui va à l'encontre de la charte. Mais si tout le monde reste dans l'inaction, l'indifférence, en fait, le nombre de morts va continuer, le sang coule et va continuer à couler, et ça c'est dramatique. C'est donner un mauvais message aux Congolais, comme si on ne partageait pas la même humanité. L'Union européenne, de l'Italie, c'est de prendre position par rapport à cette agression et pouvoir mettre des sanctions, puisqu'il y a des mesures, des sanctions qui sont prévues pour tout pays qui soutient les groupes rebelles dans cette région.
Pendant ce temps, j'appelle le Conseil de sécurité à condamner les crimes commis en RDC avec la plus grande fermeté et à soutenir la décision du gouvernement de la RDC de les renvoyer devant la Cour pénale internationale pour la poursuite des responsables. Cette déclaration est de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Madame Bitou Keïta s'est ainsi exprimée hier vendredi à New York lors de la présentation du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en République démocratique du Congo. Pour la chef de la MONUSCO, le Conseil doit également exiger la libération immédiate des 5 filles retenues en captivité par le M23. Plus de détails avec Pelé Kipelamondo. Les atrocités et autres crimes qui auraient été commis par l'M23 et d'autres groupes armés sont extrêmement préoccupants, affirme Binto Keïta. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC explique que plus récemment, une équipe d'enquête préliminaire des Nations Unies a pu confirmer qu'entre le 28 et le 30 novembre à Kishishe et Bambo, territoire de Rutshuru au nord Kivu, au moins 131 civils, dont 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants ont été tués par des combattants du M23. Au cours de la même période, poursuit-elle, les combattants du M23 ont violé au moins 22 femmes, dont une a été tuée après le viol, et 5 filles. Les 5 filles sont actuellement détenues en captivité par des combattants du M23 et seraient victimes d'esclavage sexuel. Pour Binto Keïta, ni ces crimes, ni d'autres crimes graves ne doivent pouvoir se poursuivre et rester impunis. Elle renseigne également que la MONUSCO a continué de fournir un appui opérationnel, logistique et tactique au FRDC et à la PNC dans leurs efforts pour affronter les groupes armés dans l'est du Congo et notamment contre le M23. Des patrouilles robustes, y compris conjointement avec les FRDC et la PNC, ont été menées dans et autour de Goma pour assurer la protection des civils et dissuader le M23 d'avancer davantage vers la ville. En outre, la MONUSCO a mis en place des réseaux d'alerte communautaire supplémentaires dans les zones vulnérables aux attaques du M23, dont les territoires des Rutshuru et des Masisi.
Et puis en plus bref, la Belgique condamne dans les termes les plus fermes l'assassinat d'un grand nombre de civils à Kishishe et Bambo dans la province du Nord Kivu en RDC. Dans un communiqué rendu public hier vendredi, la Belgique dit réitérer son soutien aux efforts diplomatiques régionaux, en particulier des processus de Nairobi et de Luanda qui promeuvent la désescalade et la recherche d'une pacification durable de l'est de la RDC. La feuille de route agréée à Luanda doit être mise en œuvre sans délai dans tous ses aspects, y compris par le AM23, indique le communiqué. Pendant ces temps, la société civile du territoire de Nyiragongo, Nord Kivu, s'est dit inquiète de la recrudescence de l'insécurité dans son entité depuis quelques temps. Cette structure indique qu'elle enregistre de plus en plus d'incidents armés qui occasionnent la mort parmi la population locale, y compris les déplacés des guerres. Des tirs, des pillages et des cambriolages sont enregistrés au quotidien dans les villages et quartiers. C'est notamment en groupement Kibati, Baumba, Rusayu, Munigi et dans le parc de Virunga déplore le secrétaire technique de cette structure. D'après lui, en plus de l'afflux des déplacés, le territoire de Nyiragongo fait face à une forte présence des militaires déployés pour sécuriser la ville de Goma contre la menace du M23, mais aussi plusieurs groupes de bandits et groupes armés locaux. Thierry Gassisiro explique cette préoccupation.
On ne peut pas passer une nuit sans que l'on enregistre des cas de tuerie, de cambriolage de maisons. Le mercredi, au niveau du village Ngangi 1, deux corps sans vie de deux jeunes garçons ont été retrouvés, tués par balles, et dont les malfrats ne sont pas encore jusque-là connus. Le phénomène 40 voleurs ont pu visiter plusieurs maisons et ont emporté plusieurs biens de valeur et causé plusieurs dégâts. Toujours au courant de cette semaine, au niveau du groupement Kibati, un militaire ivre et incontrôlé a semé désolation en tirant plusieurs coups de balle et qu'au total, 4 personnes ont pu trouver la mort. Nous, au niveau de la société civile, nous sommes en train d'alerter les autorités à multiplier et la vigilance des services de sécurité. Et il y a risque de craindre qu'il y aurait une infiltration, d'où il faut une vigilance tout azimut des autorités et de la population.
L'administrateur du territoire de Nyiragongo reconnaît cette préoccupation de la population. Le colonel Patrick Iduma a affirmé récemment que la sécurisation du territoire de Nyiragongo devient un vrai défi alors qu'il est saturé par l'afflux des déplacés. Par ailleurs, sachez qu'une accalmie relative a été observée hier vendredi sur les lignes de front entre les M23 et les FRDC. C'est notamment dans la partie Bwito sur l'axe Kiseguru, mais aussi vers Kibumba à la limite entre les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Cependant, la société civile émet des craintes par rapport à la situation de Kibumba. Selon nos sources, les rebelles du M23 en position dans la zone auraient demandé à la population de quitter leur village déjà occupé, notamment Karambi et Rugari Centre, en groupement Rugari, pour se réfugier un peu plus loin vers les collines de Kanombe. Ces rebelles auraient dit à la population qu'ils prépareraient une opération de ratissage dans la région, rapportent nos sources. La société civile dit craindre une attaque imminente du M23 contre les positions des FRDC dans cette partie. D'autres sources ajoutent que ces rebelles auraient également reçu des renforts ce vendredi matin sur l'axe Tongo-Kalingera. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, journée mondiale de lutte contre la corruption, c'était hier vendredi 9 décembre. À cette occasion, l'inspection générale des finances et les organisations de la société civile recommandent aux Congolais de se mobiliser pour lutter contre ce fléau et de soutenir toutes les initiatives de lutte contre la corruption. Cette journée a été célébrée sous le thème « Zéro corruption, 100% développement, la corruption est un fléau que nous devons combattre ». Selon Jean-Claude Katende, président de la ZADO, ces deux structures se sont convenues de mettre sur pied un partenariat pour mobiliser et conscientiser les Congolais afin qu'ils s'approprient la lutte contre ce mal qui gangrène la société congolaise. Des détails avec Grace Hamzati.
Le professeur Luzolo Bambi a commencé par faire l'état des lieux de la corruption en RDC.
La corruption est dans un état généralisé. L'ampleur est très importante chez nous. La corruption est tout aussi nuisible que la guerre qu'on nous impose à l'Est.
C'est cela le sens de sa recommandation aux Congolais.
Chaque fois qu'un mal nous menace, la solution, c'est de nous mobiliser pour combattre ce mal, pour lutter contre le mal. Nous, population victime directe de la corruption, nous puissions nous lever comme un seul homme pour un nouveau champ de bataille collectif contre ce fléau.
Le président de l'Observatoire des dépenses publiques, ODEP en sigle, propose une autre thérapie. Prof. Florimo Muteba.
D'abord, renforcer tous les contrôles. Il n'y a pas que l'IGF, tous les autres, la Cour des comptes, l'IGF, CNRF, ARMP, DGCMP. Et surtout, comme nous sommes dans une année électorale, voter différemment.
Selon le pasteur Eric Senga, l'ECC a mis sur pied trois niveaux de mécanismes dans cette lutte.
L'éducation civique ainsi que la sensibilisation de nos populations. L'ECC met en place des groupes d'action de gouvernance participative, les réseautages avec les autres organisations et les niveaux institutionnels.
Une question pas seulement individuelle, mais plutôt collective, ont conclu l'IGF et la société civile.
Alors, pour sa part, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, appelle C, envisage d'insérer les cours de lutte contre la corruption de l'école maternelle à l'université. Sa coordinatrice adjointe l'a fait savoir hier vendredi à l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Les manifestations de ce fléau dans la société congolaise, son impact négatif sur l'éducation et la sécurité ainsi que dans tous les domaines de la vie nationale étaient au centre du débat. Selon Madame Beni Laura Kamuziku, il faut changer la mentalité des Congolais par la sensibilisation car d'après elle, la sanction seule ne suffit pas pour endiguer la corruption dans notre société. On l'écoute dans cet entretien qu'elle a eu avec Jeff Ngoy.
Nous attendons à une forte sensibilisation de toute la population à s'intéresser à cette question de lutte contre la corruption et nous espérons pouvoir obtenir un changement de mentalité, une instauration d'une nouvelle culture pour afin aboutir à avoir de nouveaux types d'hommes pour notre pays.
Mais tout le monde décrit l'absence de la sanction. Beaucoup de structures existent pour lutter contre la corruption. Les textes sont là. Mais pourquoi la corruption gangrène toujours notre société?
La sanction n'est pas le seul remède pour éradiquer ou diminuer la corruption. L'aspect préventif est à préconiser. Parce que nous l'avons dit ici, l'intégrité est une valeur interne. Si nous l'avons, ces hommes-là pourront l'appliquer et on aboutira plus à l'éradication ou la réduction de la conclusion ou ses effets néfastes.
L'aspect préventif, pensez-vous que vous y êtes bien arrivé, vous de la PLC, ou bien il y a quelques points faibles que vous rencontrez tout au long de votre travail?
Je dirais que nous sommes en train de travailler. Nous avons relevé les différents mécanismes que nous avons mis en place, notamment les différents moyens de dénonciation, la stratégie qui est là. Nous sommes en train de mener des actions justement pour amener tout le monde à s'approprier de cette lutte.
Entre-temps, le réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC, appelle quant à lui à l'Assemblée nationale et le Sénat à examiner la proposition de loi contre la corruption déposée à la Chambre basse du Parlement depuis 2 ans. Le député national Passisa Pamba, président de cette structure, l'a dit en marge d'une conférence débat tenue ici à Kinshasa sur les méfaits de la corruption. Passisa Pamba est au micro de Paul Matendo.
Il se fait que nous, à l'Assemblée, via l'APNAC, nous avons saisi l'opportunité pour proposer un cadre juridique qui pouvait aider le pouvoir judiciaire à bien dire les droits. Mais je suis triste de vous annoncer que depuis le 18 juin 2020, que la proposition de loi a été jugée recevable par la plénière, et donc cette proposition de loi est encore quelque part. Il y a lieu, avant que nous ne terminions donc cette législature, qu'on puisse poser la question pourquoi 2 ans après, cette proposition de loi ne fait pas l'objet de débat. Cette proposition de loi est encore en chantier, mais elle doit quand même évoluer. Et d'autres lois encore, parce que plusieurs propositions de loi d'ailleurs, en citant seulement celles ayant trait à la protection des dénonciataires.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, Médecins Sans Frontières, MSF, exprime des inquiétudes par rapport à l'augmentation des cas de choléra dans les territoires de Nyiragongo. Dans une déclaration rendue publique jeudi 8 décembre, cette ONG internationale indique avoir enregistré du 26 novembre au 7 décembre au moins 256 patients admis au centre de traitement du choléra mis sur pied par ses équipes à Munigi, proche de Goma, et dont un tiers sont des enfants de moins de 5 ans. Le point avec Sifa Maguru.
Dans son communiqué, MSF indique que la situation humanitaire ne fait que se dégrader. Plus de 177 000 personnes, selon OCHA, fuyant la guerre, se sont ajoutées aux communautés locales dans des conditions désastreuses et à la merci des intempéries et des épidémies. Vu les manques de nourriture, d'abris, de latrines et douches, tous les ingrédients sont réunis pour une catastrophe sanitaire, prévient le coordonnateur des projets pour MSF RDC, Simplice Ngar-On, à travers ce communiqué. Cette organisation déplore en outre que, malgré son appel répété à la mobilisation, la réponse actuelle est loin d'être à la hauteur, alors que les déplacés sont à quelques kilomètres de la ville de Goma, où l'on compte nombreux acteurs humanitaires. Pour sa part, le responsable de la zone de santé de Nyiragongo reconnaît qu'il y a augmentation des cas de diarrhée qui sont pris en charge au centre de traitement du choléra à Munigi ainsi qu'au centre de santé de Kanyaruchinya. Ses responsables sanitaires indiquent avoir fait rapport à l'autorité. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le gouvernement sud-africain présentait ce vendredi 9 décembre un projet de loi pour dépénaliser la prostitution et diminuer ainsi les violences faites aux femmes qui continuent d'augmenter dans tous les pays. Et puis Washington a imposé ce vendredi 9 décembre des sanctions à l'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, accusé d'avoir violemment réprimé l'opposition avant d'être renversé par un coup d'État en 2021, selon un communiqué du Trésor. Les sanctions gèlent les avoirs de l'ex-président et interdisent toute relation commerciale avec lui.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Jean-François Malangou, coordonnateur du bureau central de coordination. Après une mission du BCECO effectuée dans le territoire de Dimbelenge et Luisa, Jean-François Malangou s'est dit satisfait de l'évolution des travaux du programme de développement local des 145 territoires. Plusieurs écoles et centres de santé sont en construction malgré les difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction rencontrées par les agences d'exécution recrutées. Mais il assure que les ouvrages seront livrés dans le délai. Jean-François Malangou s'entretient ici avec François Kadima. Suivez.
Monsieur Jean-François Malangou, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été à la tête d'une mission sur terrain. BCECO a recruté certaines agences d'exécution. Les travaux sont exécutés à quelle hauteur?
Nous avons exécuté dans le cadre de la supervision des travaux que BCECO a commandé auprès des agences locales d'exécution, une mission de supervision pour nous rassurer et voir l'état d'évolution des travaux sur le terrain et puis voir s'il y a des contraintes lesquels peuvent avoir une incidence sur l'exécution du projet, la performance du projet, et ensemble voir comment est-ce qu'on peut résorber ces difficultés s'il y en a, et faire en sorte que le projet puisse atteindre ses objectifs. Sous mes yeux, j'ai un plan de démarrage des travaux qui a été exécuté à la 8e semaine. Pratiquement toutes les agences d'exécution devraient être déjà au niveau d'élévation des murs. Ce satisfait-ci peut se situer au niveau de 80% parce que partout où nous sommes passés, nous avons trouvé des élévations de murs conformément au calendrier. En dépit des quelques difficultés inhérentes à l'environnement, il y a des difficultés d'accessibilité aussi qui rend aussi difficile l'approvisionnement parce qu'il y a des sites qui sont situés à des endroits les plus inaccessibles qu'on peut imaginer. Et l'approvisionnement et la fourniture en matériaux de construction se fait. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte. On approvisionne certains chantiers en moins longs portés sur des têtes, l'eau pareillement, le sable pareillement. Il y a un plan d'exécution des travaux qui a été partagé avec Beseco et nous évaluons ces travaux sur base de ce plan de travail. Au regard du plan qui nous a été transmis par les agences locales d'exécution, confirmé que nous pouvons évoluer et confirmer la proportion qui est de 80%. C'est sur base d'un planning.
Alors, les défis à relever, c'est les déploiements des outils. Alors, comment les choses peuvent bien se faire, se dérouler pour permettre aux agences de bien exécuter les travaux, pour surmonter les défis?
Cette responsabilité revient à l'autorité provinciale. Parce que la fourniture et l'évacuation des matériaux de construction se font sur des routes qui sont sous la responsabilité du gouvernement provincial. Je peux vous avouer que l'arrière-pays est complètement cassé. Il n'y a pas de route. À titre d'illustration, je vous dirais qu'il y a des tronçons de 12 km que nous avons effectués en 12 heures. Il est difficile, par exemple, de faire parvenir du ciment à des endroits où le véhicule ne peut pas passer. Nous-mêmes, nous en avons fait l'expérience. Nous avons recueilli aussi des informations des agences locales d'exécution qui nous ont preuve à l'appui montré des photos où un camion entier du ciment s'est renversé, mais sur des tronçons impraticables. Je ne sais pas si au-delà de la réalité, il y a d'autres mots pour décrire ce qu'on a vu. Les routes sont très, très difficilement accessibles. Les sites sont situés au bout du monde et accéder à ce coin reculé inaccessible, ça ne peut relever que de la magie. Et d'ailleurs, je veux croire que c'est ça la marge qui fait que 20% du travail n'a pas été atteint parce que ajouté à cela les conditions climatiques, je prends le cas du territoire de Louisa où il pleut tous les jours.
Au nombre d'ouvrages visités, qu'est-ce qui a déjà été fait?
Il est prévu 29 écoles. Il est prévu 16 centres de santé qui sont répartis sur les trois territoires qui sont à ce jour en contrat avec les agences locales d'exécution. Sur le 9 secteurs du territoire de Louisa, nous en avons fait 7. Sur le 9 de Kazumba, nous en avons fait 7. Et sur les 7 de Louisa, nous en avons fait 6. En principe, on les a toutes couvertes. Sauf exceptionnellement certains sites qui ont été complètement inaccessibles, comme dans le cas de Louisa, au niveau de Bushimai, il faut accéder par Meneditu. On n'a pas pu le faire. Et au niveau de Kazumba, on n'a pas pu accéder à un site qu'il fallait accéder à partir de Mbulungu, en venant vers Tchikapa. Ces sites seront sûrement retenus dans le prochain programme de supervision qui va être fait. Mais de manière globale, nous avons couvert 98% de tous les sites qui ont été prévus.
Monsieur Jean-François Malango, nous vous disons merci.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination d'Emmanuel et la Meji Wakabedi depuis Bukavu et la supervision de Pélé Kipelamondo. Merci également à vous pour votre particulière attention.